Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. 9. Le chemin spirituel. Suite. Comment suivre le chemin? Nous possédons tous le karma qui nous permet de croiser un chemin spirituel ou un autre. Et c'est du fond du cœur que je vous encourage à suivre en toute sincérité le chemin qui vous inspire le plus. Lisez les grandes œuvres spirituelles de toutes les traditions. Essayez de comprendre ce que les maîtres entendent par libération et éveil. Et découvrez quelle approche de la réalité absolue vous attire réellement et vous convient le mieux. Dans votre quête, faites preuve d'autant de discernement que possible. Plus encore que toute autre discipline, en effet, le chemin spirituel exige de l'intelligence, une compréhension sobre et de subtiles facultés de discrimination. Car l'enjeu ici est la vérité la plus haute. Usez à chaque instant de bon sens. Soyez conscient, avec autant de lucidité et d'humour que possible, du bagage que vous emportez avec vous sur le chemin. Vos manques, vos fantasmes, vos faiblesses et vos projections. Joignez à une conscience grandissante de ce que pourrait être votre vraie nature, une humilité équilibrée et terre à terre, une évaluation lucide de votre position sur le chemin spirituel et de ce qu'il vous reste encore à comprendre et à accomplir. Le plus important est de ne pas se laisser piéger par une certaine mentalité de consommateur que j'observe partout en Occident. On passe d'un maître à un autre, d'un enseignement à un autre, sans continuité aucune, sans jamais se consacrer sincèrement et résolument à une discipline en particulier. Dans toutes les traditions, presque tous les grands maîtres spirituels s'accordent sur le fait qu'il est essentiel de connaître à fond une voie, un chemin de sagesse particulier et de suivre, de tout son cœur et de tout son esprit, une seule tradition jusqu'au terme du voyage spirituel, tout en demeurant ouvert et respectueux à l'égard des vérités de toutes les autres. Nous avions coutume de dire au Tibet, connaître une voie, c'est les accomplir toutes. L'idée en vogue actuellement, selon laquelle nous pouvons toujours conserver notre entière liberté de choix et ne jamais nous engager dans quoi que ce soit, est l'une des illusions les plus graves et les plus dangereuses de notre civilisation. L'un des moyens les plus efficaces de l'ego pour saboter notre quête spirituelle. Lorsque vous passez tout votre temps à chercher, la recherche elle-même devient une obsession et vous asservit. Vous devenez un touriste spirituel, vous affairant sans cesse, sans jamais arriver nulle part. Comme le disait Patrol Rinpoche, laissez votre éléphant à la maison et cherchez ses empreintes dans la forêt. Suivre un enseignement unique n'a pas pour but de vous limiter ou de vous accaparer jalousement. C'est un moyen habile et plein de compassion pour vous permettre de rester centré et de ne pas vous égarer hors du chemin, en dépit de tous les obstacles qui se présenteront inévitablement en vous-même et dans le monde. Aussi, lorsque vous aurez exploré les diverses traditions mystiques, choisissez un maître, homme ou femme, et suivez-le. S'engager sur le chemin spirituel est une chose, trouver la patience et l'endurance, la sagesse, le courage et l'humilité de le parcourir jusqu'au bout en est une autre. Il se peut que vous ayez le karma vous permettant de rencontrer un maître, mais vous devrez ensuite créer le karma grâce auquel vous pourrez le suivre. Fort peu d'entre nous, en effet, savent comment suivre véritablement un maître, ce qui est un art en soi. Si grand que soit l'enseignement ou le maître, l'essentiel est que vous trouviez en vous-même la perspicacité et l'habileté nécessaires pour apprendre à l'aimer et à le suivre. Cela n'est pas facile. Les choses ne seront jamais parfaites. Comment pourraient-elles l'être? Nous sommes toujours dans le samsara. Même lorsque vous aurez choisi votre maître, et que vous suivrez les enseignements avec toute la sincérité dont vous êtes capable, vous rencontrerez souvent des difficultés et des frustrations, des contradictions et des imperfections. Ne succombez pas aux obstacles ou aux difficultés mineures. Ils ne sont souvent que les émotions puériles de l'ego. Ne les laissez pas vous aveugler sur la valeur essentielle et stable de ce que vous avez choisi. Ne laissez pas l'impatience vous détourner de votre engagement envers la vérité. Combien de fois ai-je été attristé de voir le nombre de personnes qui, venues à un enseignement ou à un maître avec un enthousiasme prometteur, perdaient courage dès que des obstacles insignifiants et inévitables s'élevaient pour rechuter dans le samsara et dans leurs vieilles habitudes, gaspillant ainsi des années, voire une vie entière. Ainsi que l'a dit le Bouddha dans son premier enseignement, la racine de toute notre souffrance dans le samsara est l'ignorance. Tant que nous ne nous en sommes pas libérés, l'ignorance peut sembler sans fin, et même lorsque nous sommes engagés sur le chemin spirituel, notre quête demeure voilée par elle. Toutefois, si vous vous rappelez ceci et gardez les enseignements présents dans votre cœur, vous développerez progressivement le discernement nécessaire pour reconnaître les multiples confusions de l'ignorance. Et ainsi, ne jamais mettre en péril votre engagement, ni perdre votre vision d'ensemble. La vie, nous a enseigné le Bouddha, est aussi brève qu'un éclair dans le ciel. Pourtant, Wordsworth écrivait: le monde a trop d'emprise sur nous. Nous acquérons et nous dépensons, galvaudant ainsi notre potentiel. L'erreur la plus déchirante de l'humanité est peut-être ce gaspillage de notre potentiel, cette trahison de notre essence, cette négligence de l'opportunité miraculeuse que nous offre la vie, le bardo naturel, de connaître et d'incarner notre nature d'éveil. Les maîtres nous recommandent, en essence, de cesser de nous leurrer. Qu'aurons-nous appris si, au moment de la mort, nous ne savons pas réellement qui nous sommes? Le livre des morts tibétain nous dit: exécuter ses activités dépourvues de sens, l'esprit absent, sans penser à la venue de la mort, et revenir les mains vides serait maintenant confusion totale. Reconnaissance et enseignement spirituel sont nécessités. Alors pourquoi ne pas pratiquer le chemin de la sagesse maintenant même? De la bouche des saints viennent ces mots. Si tu ne gardes pas l'enseignement de ton maître dans ton cœur, ne t'abuses-tu pas toi-même? Le maître. Dans un tantra, le Bouddha dit: de tous les Bouddhas jamais parvenus à l'éveil, pas un seul ne l'a atteint sans faire confiance à un maître. Et des 1000 Bouddhas qui apparaîtront dans cet éon, pas un seul n'atteindra l'éveil sans faire confiance à un maître. En 1987, mon maître bien-aimé, Dodjom Rinpoche, s'éteignit dans le sud-ouest de la France où il avait vécu. Lors d'un voyage de retour en train vers Paris, des images défilaient dans mon esprit et je me remémorais ces innombrables actes de générosité, de tendresse et de compassion. Je me retrouvais en larmes, me répétant sans cesse à moi-même: sans vous, comment aurais-je jamais pu comprendre? Jamais je n'avais réalisé plus intimement, plus intensément, pourquoi l'on insiste tant dans notre tradition sur le caractère sacré de la relation entre maître et disciple, et combien elle est essentielle à une transmission vivante de la vérité, d'esprit à esprit et de cœur à cœur. Sans mes maîtres, jamais je n'aurais eu la possibilité de réaliser la vérité des enseignements. Je ne peux même pas imaginer que j'aurais été capable d'atteindre le modeste niveau de compréhension qui est le mien. Beaucoup en Occident sont méfiants à l'égard des maîtres, souvent, hélas, à juste titre. Il n'est pas nécessaire ici de dresser la liste des nombreux cas, terribles et décevants, d'égarements, de cupidité et de charlatanisme qui se sont produits dans le monde moderne depuis qu'il s'est ouvert à la sagesse orientale dans les années 1950 et 1960. Pourtant, toutes les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient chrétiennes, soufis, bouddhistes ou hindous, puisent leur force dans la relation de maître à disciple. Aussi le monde actuel a-t-il besoin, et de façon urgente, de parvenir à une compréhension aussi claire que possible de ce que sont un maître authentique. Un étudiant ou un disciple authentique. Il est essentiel qu'ils comprennent la vraie nature de la transformation qui s'opère au travers de la dévotion envers le maître et que l'on pourrait appeler l'alchimie du rapport maître à disciple. La description la plus émouvante et la plus juste que j'ai jamais entendue concernant la vraie nature du maître provient sans doute de mon maître Jamian Kiense. Il disait que, bien que notre véritable nature soit le Bouddha, elle a été obscurcie depuis des temps immémoriaux par un sombre nuage d'ignorance et de confusion. Cependant, cette nature véritable, notre nature de Bouddha, ne s'est jamais complètement soumise à la tyrannie de l'ignorance. Elle continue à se rebeller d'une façon ou d'une autre contre sa domination. Notre nature de Bouddha a donc un aspect actif, qui est notre maître intérieur. Dès l'instant même où notre nature a été obscurcie, ce maître intérieur a infatigablement œuvré pour nous, s'efforçant inlassablement de nous ramener au rayonnement et à l'espace de notre être véritable. Jamais, disait Jamian Kiense, ce maître intérieur n'a désespéré de nous une seule seconde. Dans sa compassion infinie, ne faisant qu'une avec la compassion infinie de tous les Bouddhas et de tous les êtres éveillés, il a travaillé sans relâche à notre évolution, non seulement dans cette vie-ci, mais également dans toutes nos vies passées. Usant de toutes sortes de moyens habiles et de situations afin de nous instruire, nous éveiller et nous ramener à la vérité. Lorsque nous avons prié, désiré, rechercher ardemment la vérité durant de nombreuses vies, lorsque notre karma a été suffisamment purifié, se produit alors une sorte de miracle. Et ce miracle, si nous savons le comprendre et l'utiliser, peut mettre fin à jamais à l'ignorance. Le maître intérieur, qui a toujours été avec nous, se manifeste sous la forme du maître extérieur que nous rencontrons alors, presque comme par magie, dans la réalité. Il n'est pas dans une vie de rencontre plus importante. qui est ce maître extérieur ? Il n'est autre que l'incarnation, la voix, le représentant de notre maître intérieur. Ce maître dans la forme humaine, la voix humaine, la sagesse finiront par nous devenir plus chers que tout au monde, n'est autre que la manifestation extérieure de notre propre vérité intérieure et de son mystère. Comment expliquer autrement le lien si fort qui nous unit à lui? Au niveau le plus profond et le plus élevé, maître et disciple ne sont pas séparés et ne peuvent jamais l'être en aucune façon. La tâche du maître est en effet de nous apprendre à recevoir sans le moindre voile le clair message de notre propre maître intérieur. Et de nous amener à réaliser en nous la présence ininterrompue de ce maître ultime. Puisse chacun d'entre vous goûter dans cette vie la joie de cette amitié parfaite entre toutes. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Prochaine émission, suite du chemin spirituel. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.